Le dispositif continuité pays prolongé par les élus du Congrès. Dans le même temps, on a appris ce matin un possible déblocage de l'aérodrome de l'île des Pins. Le projet de loi constitutionnelle sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne fait pas consensus à l'Assemblée nationale. Les groupes de gauche et le Rassemblement national ont repoussé les articles de ce texte qui traduit l'accord de Bougival. 240 milliards de francs sur 5 ans, le haut-commissaire a présenté hier le plan de refondation de la Nouvelle-Calédonie préparé par la mission interministérielle et validé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Éleveurs et maraîchers vigilants 2.0, c'est le nom d'une convention qui a été signée ce matin entre l'État, la gendarmerie et la Chambre de l'agriculture et de la pêche. Explication dans ce journal. Et puis le sport avec du football et la Nouvelle-Calédonie qui a rendez-vous avec l'histoire demain. Les Cagous affrontent à 14h la Jamaïque dans le cadre des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. La survie d'Erkal en débat au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Les élus se sont réunis ce matin dans l'hémicycle du boulevard Vauban. Les travaux ont débuté par l'examen du projet de délibération visant à prolonger la continuité pays jusqu'à la fin de l'année. Jean-François Bodin.
Le dispositif d'aide est actuellement dans une version transitoire en attendant une nouvelle loi du pays qui permettra de mettre en place de nouveaux critères d'attribution pour les bénéficiaires. En réalité, ce texte a été l'occasion d'élargir le débat et d'évoquer la situation d'Erkalédonie. Demain, un conseil d'administration de la compagnie doit se réunir pour évoquer la situation qui découle des blocages et notamment la question de son avenir. Pour Sonia Baquès, la présidente de l'Assemblée de la province sud, ce dossier politique doit être discuté au Congrès.
La situation sanitaire empire. On a eu des urgences vitales à gérer cette semaine, qui ne s'est pas bien terminée. Évidemment, le temps de réaction pour trouver des solutions est malheureusement très long et génère une perte de chance importante de la part des patients. Donc c'est, je pense, une bonne nouvelle pour la population Kounié d'avoir cette réouverture. C'est aussi une bonne nouvelle sur le plan économique parce que je crois que tous les hôtels sont au bord de la fermeture. Tout le monde est au chômage partiel, mais je crois que là, on est à la limite de l'arrêt complet. Le blocage, de toute façon, n'est jamais la bonne solution. Je pense que les îles Loyauté vont très vite arriver dans la même situation sanitaire que l'île des Pins. Je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'il se pose la question de la poursuite des blocages.
Sonia Baquès, qui est votre, quelle est donc cette bonne nouvelle qui est la libération de l'aérodrome de l'île des Pins? Alcide Ponga avait indiqué un peu plus tôt que le gouvernement continuait à discuter avec ceux qui voulaient discuter, et notamment à l'île des Pins. Et c'est donc l'info de la journée, l'aérodrome de l'île des Pins a été libéré. Sonia Baquès qui est revenue donc sur le dossier d'Erkal, dossier politique, dit-elle, qui doit être discuté au Congrès.
Je considère que ce n'est pas un conseil d'administration de décider s'il doit y avoir une compagnie aérienne locale ou pas, c'est aux élus. Malheureusement, ce débat n'a pas eu lieu au Congrès. Les choses sont décidées dans des conseils d'administration, alors que l'actionnariat d'Erkal est un actionnariat de la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il faut se poser la question globalement de l'équilibre d'Erkal, de comment on fait pour maintenir une desserte aérienne si on veut une desserte aérienne. Si on veut plus de desserte aérienne, comment on peut compenser avec une desserte maritime. Mais en tout cas, ces questions-là, il faut se les poser de manière claire et nette. Et il faut aussi dire aux habitants des îles et aux collectivités des îles, y compris la province sud pour ce qui concerne l'île des Pins, combien ça coûte de maintenir une desserte aérienne, combien ça coûte de maintenir une desserte maritime et comment celle-ci est prise en charge. Je pense que c'est ça le vrai sujet.
La question de la survie d'Erkal est vraiment sur la table?
Clairement, demain au conseil d'administration d'Erkal, il y a un point à l'ordre du jour sur le dépôt de bilan de la compagnie Erkal.
Au cours de cette séance du Congrès, les élus ont examiné et adopté deux autres délibérations. Le deuxième texte à l'ordre du jour visait à prolonger le dispositif cadre avenir pour 2 ans. Lancé en 2005 pour 10 ans, il avait été prolongé une première fois pour une décennie. Fin 2025, l'État a indiqué au gouvernement que la Direction générale des Outre-mer réalisait une évaluation pour voir les pistes d'amélioration. Il a donc été proposé de le reconduire uniquement pour 2 ans dans le cadre de ce nouvel avenant, d'autant plus que l'accord de Bougival prévoit que le programme cadre avenir soit repensé et renforcé. La troisième délibération examinée ce matin concernait des dispositions du droit du travail et de protection sociale en réponse à la crise de mai 2024. Il s'agit en fait de la mise en place concrète de la loi de pays adoptée le 10 mars dernier, notamment la mise en place de la présomption de démission en cas d'abandon de poste.
Et j'ajoute que la séance a débuté par un hommage à Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre et signataire de l'accord de Nouméa pour l'État. S'est éteint cette semaine à l'âge de 88 ans. Un coup dur pour l'accord de Bougival. La commission des lois de l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Le texte va être examiné à partir de mercredi prochain en séance publique, mais son adoption, Elisabeth Noir, s'avère extrêmement compliquée.
Extrêmement compliquée pour ne pas dire impossible, dans la mesure où les députés LFI, socialistes et Rassemblement national y sont opposés et que dans ces conditions, il sera difficile de trouver une majorité dans l'hémicycle. Les groupes de gauche et le Rassemblement national qui ont repoussé successivement progressivement chaque article du projet de loi qui vise à inscrire dans la Constitution l'accord de Bougival et l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Au cœur des tensions, notamment la question des élections provinciales, qui ont déjà été reportées 3 fois. En l'état, elles doivent se tenir avant le 28 juin. Mais la réforme constitutionnelle prévoit un 4e report à la fin de cette année, à la fin 2026. Un report que ni la gauche ni le Rassemblement national ne veulent approuver. Mais en toile de fond, c'est la question de l'ouverture du corps électoral qui est au centre des débats. Et le député Emmanuel Tchibaou a justifié son refus de Bougival et de l'ouverture du corps électoral.
Il n'y a aucun pays dans le monde qui a gelé son corps électoral. Et le FLNKS, il a engagé ce principe parce que c'est un principe de rééquilibrage et de décolonisation. À partir du moment où l'inégalité, elle existe aujourd'hui, encore pour les Kanaks, sur le plan social, sur le plan de l'accès à l'emploi, sur le plan de la scolarisation, sur le plan d'accès aux diplômes, c'est clairement les dispositions du rééquilibrage. Pour nous, le processus, il est encore engagé et qu'il n'est pas terminé. Et c'est pour ça qu'on a contesté le projet d'accord. C'est pour ça qu'on a retiré nos signatures.
Présent également à la commission des lois, le député Nicolas Mezdorf a dénoncé pour sa part un discours à géométrie variable de la part d'Emmanuel Tchibaou et des partis de gauche. Il leur reproche de vouloir empêcher les Calédoniens de se prononcer. Mais s'il faut voter fin juin, pas de problème, déclare le député de la première circonscription.
Alors nous, on a hâte d'aller aux élections. Et compte tenu des résultats des municipales, je peux vous dire que on n'a pas du tout peur d'aller affronter le suffrage universel. Le problème, c'est que l'indignation démocratique, elle est à 2 vitesses. C'est-à-dire que, oulala, mon Dieu, c'est inadmissible démocratiquement qu'on puisse repousser des élections d'un an, de 2 ans, c'est terrible. Par contre, interdire à des gens de voter en Nouvelle-Calédonie, ça, c'est pas un problème. Donc, en fait, ça serait antidémocratique de pas faire ces élections, mais ça serait totalement démocratique de les faire avec des natifs exclus, des conjoints exclus et des personnes installées depuis 30 ans exclus. Ben nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de respecter la démocratie sur tous ces aspects. C'est-à-dire, on va aux élections et on permet aux gens de voter à ces élections, ces gens qui sont des Calédoniens depuis de longues années. Parce que si c'est pour nous dire, en fait, que la France doit respecter la démocratie et aller à des élections en excluant 20% de la population calédonienne, pardon, mais c'est tout sauf démocratique.
Pas de problème pour aller aux élections dès le mois de juin, mais ce ne peut être qu'avec une ouverture du corps électoral. Sinon, met en garde le député Nicolas Mezdorf, les choses pourraient mal se passer.
On pourra aller aux élections provinciales si les Calédoniens refusent l'accord de Bougival. Mais là, aujourd'hui, il y a un accord qui a été trouvé, qui est défendu par l'ensemble des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, hors UC. Donc la moindre des choses, c'est que le peuple calédonien s'exprime sur cet accord et que l'Assemblée nationale arrête de prendre en otage le choix des Calédoniens. Si on devait aller aux élections provinciales, parce que l'Assemblée nationale refuse que les Calédoniens s'expriment sur Bougival, je voudrais vous mettre en garde sur une chose. Si elle se déroule avec le même corps électoral, je ne suis pas sûr que les dizaines de milliers de Calédoniens exclus, et même ceux qui ont le droit de vote mais qui défendent une Calédonie démocratique, acceptent qu'elle se déroule dans de telles conditions. Vous prenez le risque. Vous prenez le risque, vous nous l'avez suffisamment dit, vous nous avez suffisamment utilisé cet argument de votre côté pour dire « attention, ça va mettre le feu aux poudres ». Je connais la Nouvelle-Calédonie, je connais mon pays, je connais notre électorat, je connais nos gens. Je peux vous dire une chose, c'est que si les élections provinciales se tiennent en excluant encore des milliers de gens du droit de vote, ça ne pourra pas bien se passer.
La commission des lois qui a donc fini par rejeter l'ensemble des articles de la loi constitutionnelle. On sait que mardi soir, le président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat s'étaient retrouvés à l'Élysée pour évoquer la situation dans l'hypothèse où le projet de loi constitutionnelle ne serait pas adopté. Un cas de figure qui devient de plus en plus probable si la gauche et le Rassemblement national maintiennent leur refus du texte. D'autant plus qu'il faudra faire face à l'obstruction de la France insoumise qui fera tout pour faire échouer l'adoption de la réforme constitutionnelle.
Sans visibilité, pas de reprise, c'est le cri d'alarme lancé par le monde économique. 90% des entreprises considèrent qu'aucune relance durable n'est possible sans cadre institutionnel stabilisé. C'est ce que ressort d'une grande enquête lancée par les chambres consulaires, les organisations patronales et syndicales et les syndicats professionnels auprès d'un large panel de chefs d'entreprise. Enquête rendue publique en plein débat parlementaire sur l'avenir de l'accord de Bougival et sur laquelle nous reviendrons en détail, demain matin à 7h30, notre invité sera en effet Stéphane Iotto, le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est dans ce contexte que la CCI organise la semaine, une semaine de l'entrepreneuriat. Elle est destinée à accompagner les chefs d'entreprise et les porteurs de projets. Nous allons vous parler à midi dans les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Une semaine qui correspond à un vrai besoin, expliqué Benoît Dunoguès, responsable du département gestion des entreprises à la CCI.
Effectivement, on est dans un contexte économique compliqué. Les différents rapports sortis ces derniers mois vont dans ce sens-là. On a un tiers des chefs d'entreprise qui ont des doutes sur leur capacité à tenir économiquement jusqu'à la fin de l'année. Donc l'important, c'est de pouvoir axer ces rendez-vous sur l'importance de l'accompagnement des porteurs de projets, des chefs d'entreprise dans leur projet de création ou de développement d'activité, mais aussi sur la thématique de la cession reprise, où on sait qu'il y a de gros enjeux sur le territoire et qui est une thématique qui doit s'anticiper, qui doit se préparer à l'avance pour avoir toutes les chances de succès.
Lors de cette semaine de l'entrepreneuriat, dont le programme est disponible sur le site internet de la CCI, de nombreux professionnels seront là pour conseiller et guider les chefs d'entreprise. Une aide précieuse, car être chef d'entreprise, cela ne s'improvise pas et cela s'anticipe, a expliqué Pierre Massenet, élu à la CCI, directeur général du groupe SIPAC.
Créer une entreprise, c'est pas juste des idées. Une entreprise, c'est surtout de l'exécution. Voilà, donc beaucoup de gens ont des idées, mais peu de gens finalement arrivent à exécuter de manière convenable une idée pour créer de la valeur économique et puis perdurer dans le temps. Lancer un projet, c'est aussi des responsabilités, c'est accepter de porter des risques pour soi-même, également pour des salariés si on en a, pour des familles. Et puis l'entreprise, c'est quelque chose qui est assez exigeant. Nos amis anglo-saxons ont l'occasion, dans le domaine des startups, de parler du run way. J'aime bien cette idée. On a une piste de décollage. On a la barre des 3 ans, c'est un peu symbolique. Mais en gros, on a une piste de décollage. On met des moyens, on met de l'énergie. On emmène des partenaires, on emmène des collaborateurs. Et si au bout de la piste, on n'arrive pas à décoller, ben c'est le crash. C'est pour ça qu'on ne s'improvise pas entrepreneur. Ça nécessite de l'accompagnement. Là, la plus grosse erreur, c'est celle de rester tout seul, surtout quand on a justement des aides qui sont à disposition, gratuites. Donc voilà, être entrepreneur, c'est quelque chose qui peut faire une vie, c'est quelque chose qui permet de se réaliser, mais c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Et il faut faire appel aux moyens qui sont à disposition.
Des extraits des jeudis de l'économie à retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc. 240 milliards de francs sur 5 ans, le haut-commissaire a présenté hier le plan de refondation pour la Nouvelle-Calédonie, préparé par la mission interministérielle et validé par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Et nous en avons parlé ce matin avec Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle sur la Nouvelle-Calédonie, Jean-François Bodin.
Après le temps de l'urgence, nous ouvrons celui de la reconstruction, a déclaré Jacques Billan, qui a lancé ce plan de refondation en présence des responsables d'institutions et des représentants du monde économique et social. Il a notamment présenté les 64 premier projet que l'État va prendre en charge à 100%. Certains sont déjà en cours, d'autres doivent être lancés d'ici la fin de l'année. C'est donc une nouvelle phase qui s'ouvre. Ce pacte de refondation prévoit aussi un travail de fond sur la filière nickel pour construire un modèle durable qui assure au moins l'équilibre de la filière et des usines dans les années à venir. Le travail sur ce point est moins visible, mais il avance, nous a dit Claire Durieux.
Effectivement, le travail est plus discret, mais il est tout aussi intense, je peux vous l'assurer. Concrètement, ces derniers mois, on a beaucoup travaillé avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, les différentes provinces concernées, et puis bien sûr les métallurgistes et les potentiels repreneurs. Et l'objectif, ce qu'on s'est fixé, c'est d'identifier quelles étaient les conditions qui permettraient le retour à la rentabilité au plus tard sous 5 ans. Des usines. Donc on a identifié les leviers, maintenant on les connaît, on va les partager avec, prochainement avec le monde économique et social. Mais globalement, ce que je note, c'est qu'il y a eu une prise de conscience des élus sur le fait que pour préserver les usines et donc la transformation, il y avait des évolutions du modèle qui étaient indispensables. Et ce n'est pas l'État qui le demande, l'État ne demande rien, il fait constater s'il y a ou non rentabilité. En revanche, les potentiels repreneurs demandent des choses. Ils ont fait aussi leur analyse de rentabilité et clairement, ils disent, pour reprendre, ils veulent de manière cumulative un fort soutien de l'État et pouvoir exporter de manière encadrée, en parallèle de la transformation, le minerai non valorisable sur le territoire. Donc ils avaient posé clairement ça sur la table. Les élus ont vu la situation et pour préserver les emplois et les usines, ont souhaité, en responsabilité, voter un texte sur les exports. Donc, oui, le travail est plus discret, mais il est très réel et il est absolument fondamental pour l'économie du territoire.
Claire Durieux qui a annoncé ce matin qu'elle allait quitter ses fonctions de directrice de la mission interministérielle dans quelques jours. Information qui est sortie dans la presse métropolitaine.
Tout d'abord, je regrette qu'il y ait eu ces indiscrétions de la presse nationale parce que je souhaitais l'annoncer de vive voix aux partenaires avec qui on travaille de manière franche et constructive depuis plusieurs mois. Mais donc, effectivement, je suis amenée à prendre d'autres fonctions. Comme ça n'est pas encore officialisé, même si la presse le sait, je ne vais pas dire les avec elle, mais c'est à Bercy. Je tiens à dire deux choses. La première, c'est que ça ne change absolument rien sur le déploiement du pacte. L'équipe de la mission interministérielle, elle reste en place. Les services de l'État, locaux et centraux, ils restent en place. Le haut-commissaire est aussi aux manettes. J'aurai un successeur de très grande qualité qui sera opérationnel le jour même de mon départ. Donc tout ça est complètement balisé.
Il y aura une continuité assurée.
Continuité totale, ça c'est la première chose. Portage politique au niveau du Premier ministre, c'est le plus important. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que ça a été une grande fierté pour moi de travailler pour la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens. Voilà.
Voilà donc Claire Durieux qui était notre invitée ce matin à 7h30. Le futur nouveau directeur de la mission interministérielle devrait effectuer très prochainement un premier séjour en Calédonie. Et selon nos informations, Claire Durieux doit devenir dans quelques jours la nouvelle directrice de cabinet du ministre du Budget.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Le pacte de refondation est-il, selon vous, à la hauteur des besoins de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie? Si vous pensez que ce pacte de refondation est à la hauteur, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à la question d'hier, 77% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils n'approuvent pas la mise en place de corridors sanitaires pour assurer la continuité des soins, alors que les aérodromes des îles sont bloqués depuis plus de 3 semaines. Ils sont 23% à dire qu'ils approuvent ces corridors sanitaires. C'est demain vendredi que seront élus la plupart des maires après le second tour. Dimanche, les élections municipales, l'élection du maire et des adjoints a lieu lors de la première réunion du conseil municipal qui se tient au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche qui suit l'élection. 23 des 25 conseils municipaux élus le 22 mars dernier se réuniront donc pour la première fois demain, Elisabeth.
Ce sera le cas notamment pour les communes de l'agglomération. Les conseils municipaux de Dimbéa et du Mont-d'Or se réunissent demain à 10h pour élire leur nouveau maire, respectivement Cynthia Jean et Nina Julier. À Païta, c'est à 14h qu'est convoqué le conseil municipal qui doit élire Antoine Romain. Dans les autres communes de la province sud, les conseils municipaux de Bouraï et d'Authieu sont convoqués dès 9h. À l'île des Pins, ce sera à 10h et à la Foix à 13h30. Dans la province nord, on commence un peu plus tôt avec la convocation dès 8h du conseil municipal de Caen-la-Gomaine et dès 8h30 du conseil municipal de Ponérihouin. Les conseils municipaux de Kouaoua, de Wailou, de Poidimier et de Pouébo se réuniront à 9h et celui de Canala à 10h. Le conseil municipal de Koumak est convoqué demain à 13h comme celui de Ouégua. Les conseils municipaux de Koné et de Poya sont convoqués à 14h et celui de Vaud à 15h. À Poum et à Pointe-Bout, c'est à 16h que se réuniront les conseils municipaux. Dans la province des îles, enfin, les conseils de Marais et d'Ouvéa sont convoqués dès 8h30 demain matin. 23 maires seront donc élus dès demain et il restera 2 maires à élire. Le conseil municipal de Blue Paris se tiendra samedi à 10h. À Nouméa, enfin, c'est dimanche à 16h qu'aura lieu l'installation du nouveau conseil municipal et la réélection de Sonia Lagarde.
Il est 18h03 sur Radio Rythme Bleu. On marque une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. La suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Le Tiki Fest débarque pour sa première édition en Nouvelle-Calédonie. Samedi 4 avril, l'Arène du Sud se transforme en festival international avec un line-up exceptionnel. Le rappeur emblématique Aurel San. Le DJ explosif de Major Lazer, Walshy Fire. Et aussi Shelley et les DJL et Mr. T. Billetterie, ticketpacifique.nc et dans les magasins Auchan, Quai Ferry, Auteuil et Conné. Un événement et sa production, producteur d'émotions.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en 3 lettres,
RRB.
Et la suite du journal, c'est avec vous Lionel Sabot et l'actualité locale.
Et nous parlions de la desserte aérienne vers les îles. En ce début de, au début de ce journal, les élus de la province des îles qui étaient réunis aujourd'hui pour leur assemblée. Elle était dédiée au vote du budget primitif 2026. Budget déséquilibré, la province endettée a réduit les dépenses et les services de 8%. Écoutez Mathias Ouaneux, c'est le président de la province des îles.
Le budget a été voté, hein. C'est encore un budget de rigueur et de prudence, d'autant plus qu'on a les informations nécessaires quant au budget que nous alloue le gouvernement, hein, pour à peu près 10 milliards. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle les contrats de développement, qu'on n'a pas encore signé avec l'État. Donc pour l'instant, on reste dans la même configuration de l'élan qu'on avait fait depuis l'année dernière, que là, on a pris des choses en 2024 et on va recevoir aussi l'avis de la CPC sur la gestion 2025. Quoi. Donc, tout a été décalé en fonction de certaines préconisations de l'année dernière.
Il a également été question, lors de cette assemblée, de la crise des transports. La province des îles finance le dispositif de corridor sanitaire aérien qui a été mis en place pour les malades ces derniers jours. Il coûterait 1 600 000 francs par île. La collectivité demande notamment à l'État de prendre en charge une partie de cette dépense. Un corridor sanitaire est prévu demain matin au départ de Marais. Corridor sanitaire qui sera assuré par Aircal. Cérémonie de signature de convention ce matin à la Chambre d'agriculture et de la pêche. Le haut-commissaire Jacques Billon, le général Aouchin, commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, et Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre consulaire, ont signé une convention baptisée « Éleveurs et maraîchers vigilants 2.0 ». Une convention plus opérationnelle pour un dispositif qui existe depuis déjà quelques années et qui est relatif à la sécurité du milieu agricole. Jacques Billon, le haut-commissaire.
Nous avons décidé de faire de la sécurité du monde agricole une priorité, conscient que les atteintes aux exploitations, aux élevages et aux productions fragilisent non seulement l'économie rurale, mais aussi la cohésion sociale dans nos territoires. Nous avons établi cette convention très opérationnelle en lien avec le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, au contact de tous les éleveurs concernés et avec les forces de sécurité et également la justice qui est partie prenante de cette convention. Cette convention, on peut la résumer par quelques mots-clés. C'est partenariat, c'est confiance, contact, proximité et action-réactivité.
Et concrètement, cette convention assoit un maillage très serré entre les agriculteurs, les communes et les forces de sécurité. Avec ce dispositif, les cas de braconnage, de vol ou de dégradation sont pris en compte en temps réel. Un dispositif qui a déjà porté ses fruits, rappelle Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche.
Au niveau de l'élevage, nous avons tous craint une augmentation majeure des faits de braconnage et de vol de bétail après mai 2024, parce que beaucoup de gens ont perdu leur emploi et on pouvait imaginer qu'il peut y avoir des nouveaux faits de délinquance plus importants. Et ça n'a pas été le cas, justement, grâce à ce dispositif qui a permis, donc, si ce n'est de maintenir, même de réduire dans certaines régions, les faits de braconnage, c'est très important. Et sur le Mondor Sud, où on a vu une explosion des vols sur les exploitations, et notamment les bananeraies, à partir de mai 2024, depuis quelques mois que le dispositif est en place, les producteurs pourraient vous le dire, on a eu carrément une réduction massive des vols, voire sur certaines exploitations, plus aucun vol.
Et j'ajoute que cette convention éleveurs et maraîchers vigilants 2.0 est une première mouture du dispositif de sécurisation du milieu agricole. Une convention qui sera bien évidemment amendée et adaptée dans les années qui viennent. La deuxième promotion du mentorat 2026 du lycée Jules Garnier a rencontré ce matin le MEDEF. L'établissement en partenariat avec le syndicat patronal poursuit son action pour le développement de l'esprit entrepreneurial chez les lycéens de 15 à 18 ans au sein du parcours entrepreneur. Ils étaient 26 élèves de première STMG, sciences, technologies et management de la promotion 2026 à présenter leur projet à leur futur mentor. Les précisions de Sylvie Saouliwa, elle est professeure de sciences et technologies et management.
Les projets que nos élèves ont présentés sont axés vraiment autour des besoins qu'ils ont identifiés, qui leur parlent du quotidien. Donc c'est des besoins par exemple sur le transport, lié à l'alimentation. On est parti vraiment de ce point de départ-là pour vraiment aider les élèves à imaginer en fait des solutions liées à leur projet. Par exemple, on a pu entendre des projets sur le transport. Beaucoup d'élèves arrivent en retard, il y a des problématiques de transport. Il y a des problématiques aussi liées, par exemple, aux besoins, par exemple, en nourriture, sur des personnes qui sont en situation difficile avec ce qu'on a connu ces dernières années. Donc, on part vraiment de leur quotidien. Et après, c'est chaque élève qui ont des projets bien à eux, en fait, on va dire ça comme ça, et qui leur parle vraiment.
Un échange enrichissant pour les mentors et les lycéens qui ont présenté leurs projets liés pour la grande majorité aux problèmes dans leur quotidien lors de leur scolarité.
Olivier Truyer, je travaille pour le groupe Engie. C'est toujours vivifiant de voir les jeunes se mettre en jeu, de présenter leurs projets, d'abord parce qu'ils l'ont construit, donc c'est tout un travail préparatoire qui est assez impressionnant. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ont préparé leur présentation, et puis c'est intéressant parce que ça témoigne aussi de leurs aspirations et de ce qu'ils évaluent comme étant nécessaire pour eux. Donc on comprend un peu mieux les attentes de la jeunesse en les écoutant. C'est de pouvoir montrer que le monde de l'entreprise n'est pas si éloigné et que si on y met un peu de travail, si on travaille un petit peu le rapport aux autres, la capacité à interagir, on est capable d'interagir avec ce monde de l'entreprise.
Moi, le projet que j'ai présenté, c'était un restaurant sous-marin qui se situera ici sur Nouméa et que j'espère pouvoir faire. Je compte sur les professeurs et sur nos mentors pour nous aider, nous guider.
Mon projet est un distributeur automatique au sein du lycée Jules Garnier. En gros, on a eu ce projet. On s'est penché sur les élèves externes qui sortaient pour aller manger, qui souvent étaient en retard en cours.
Les trottinettes électriques qui seront installées proche des arrêts de car, il aura pour but pour faciliter les déplacements pour les personnes des environs. Ce sera aussi un moyen d'éviter d'attendre les cars et tout. Donc ces trottinettes, ils pourront aussi leur servir de faire des déplacements spécifiques, que ce soit de courte ou longue distance. En gros, c'est un peu comme le système de vélo électrique en France.
Les propos recueillis ce matin par Kelinda Boiscou. 10 minutes pour tenter de convaincre une entreprise. C'est l'exercice auquel se sont prêtés une quinzaine d'étudiants de BTS support à l'action managériale du lycée Blaise Pascal. Cet après-midi, ils ont participé à leur job, à leur premier job dating. CV en main, ils avaient en face d'eux des recruteurs attentifs à leur motivation. Clémence Ouakali est secrétaire de vie scolaire au lycée international James Cook, un emploi qu'elle a obtenu après un stage décroché grâce au job dating organisé par le BTS SAM.
J'ai découvert James Cook grâce à ce job meeting. J'ai pu réaliser mon stage de 8 semaines. Ensuite, ils m'ont recontacté fin 2025 pour effectuer un petit job d'été. Et ensuite, j'ai recommencé en début 2026 pour un petit contrat avec eux où j'ai pu rejoindre leur équipe. L'évolution est possible, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je me vois un petit peu en ces étudiants-là parce que je les vois tous stressés. Donc moi, j'étais pareil, les mains toutes tremblantes. Je vois une évolution, en tout cas, de moi-même. Je partage mon expérience en leur disant que c'est possible d'avoir un travail après avoir réalisé un BTS, quoi, et en y mettant une bonne volonté.
Et malgré le contexte économique compliqué, une quinzaine d'entreprises a répondu à présent pour ce job dating. Il est 18h13, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité sportive, mais aussi la météo, à tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive, on va commencer avec du football. J-1 avant le barrage intercontinental de la Coupe du Monde. Demain, à 14h, la Nouvelle-Calédonie sera opposée à la Jamaïque. Un match qui se joue au Mexique, à Guadalajara. Johan Sinader, le sélectionneur de la Nouvelle-Calédonie.
C'est pas quelque chose dont on est vraiment habitué. La Jamaïque, sans doute, l'est davantage, mais ce sera surtout pas une excuse, c'est plutôt que des bons paramètres, même si effectivement l'idée c'est de ne pas se faire absorber par toute cette pression médiatique avec effectivement 50 000 personnes attendues au stade. C'est vrai que ça peut surprendre, mais l'idée c'est justement au contraire de pas être surpris et de se servir de cet engouement populaire pour réaliser un bon match.
Et en cas de victoire demain, les Cagous tenteront de décrocher un billet historique pour le mondial en affrontant en finale de ses qualifs la République démocratique du Congo. Et puis de la voile, Tom Picot et Yann Rigal disputent la Macao Match Cup 2026, l'une des étapes majeures de la Coupe du Monde de Match Race. Après une journée, le bilan de l'équipage composé des deux Calédoniens et des métropolitains Franck Lavenant et Louis Taylor est négatif, de défaite pour une victoire. Mais rien n'est encore joué puisqu'il reste 8 matchs avant la phase finale. Tom Picot revient sur les premiers matchs et reste confiant pour la suite.
On voit un niveau très homogène. On gagne un match sur trois, mais très accroché. Quand on gagne notre match contre le gagnant du championnat du monde 2022, et on perd au cul de Cole Tapper, numéro 2 mondial. Et on perd encore un match contre Aurélien Pierroz, qui est numéro 6 mondial, il me semble. La journée, globalement, elle s'est passée très positivement. On a 5 matchs à finir, et puis on saura un petit peu plus si on est en quart ou pas, quoi, globalement, je pense. Ouais, l'objectif global, à mon avis, c'est un top 3 au mieux, et au pire, j'attends un top 5, quoi.
5 matchs aujourd'hui, 3 de plus demain pour Tom Picot et Yann Rigal et leurs coéquipiers avant la phase finale. Les 8 meilleures équipes sur les 12 engagées seront qualifiées pour les quarts de finale de cette Macao Match Cup 2026. On termine ce journal avec la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Swati, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec une vigilance jaune, forte pluie orage sur la côte ouest, de Kumaka d'Imbéa, pour des averses localement orageuses qui persisteront ce soir et qui se développeront à nouveau demain après-midi. Cette nuit, des averses parfois soutenues s'attarderont en soirée sur la côte ouest, Lifou et Marais. Le ciel se dégagera ensuite et deviendra étoilé, excepté sur l'extrême sud, la côte est et le nord des Loyautés, où des averses continueront de circuler. Le vent de sud-est s'installera entre 5 et 10 nœuds. Sur la côte ouest, il sera généralement variable et faible. Côté mercure, peu de changements. Les températures évolueront de 22 à 26 degrés. Voilà pour la météo.